Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, on va entendre, on va lire ensemble la parole de Dieu, on va la méditer, mais avant ça, je vais aussi un peu vous parler du projet d'église et du logo. Alors vous l'avez déjà vu, et puis on va y revenir. Donc ce sera un peu comme une grande introduction. Alors je m'excuse par avance, une prise de parole qui va durer un peu plus longtemps qu'une prédication habituelle. Ouais, je suis désolé, hein. Parce que certains soupirent déjà. Mais ce culte de rentrée du 21 septembre 2025, c'est pour l'église de Vendeuvre aussi le moment d'entrée dans le projet d'église que nous avons réfléchi tous ensemble pour les deux prochaines années scolaires qui va nous amener jusque à l'été 2027. Ceux d'entre vous qui ont participé à la vie d'église au courant de l'année passée, vous avez déjà entendu parler du projet d'église, vous y avez été associé, on a fait un forum d'église en janvier, le week-end d'église a aussi été un moment où on a pu partager. Et donc le résultat de notre projet d'église il tient sur ce document. Voilà, un document, c'est un joli document A4, recto verso, et vous pourrez en prendre un, toutes et tous, dans une semaine. Parce que les travaux avec l'imprimeur prennent un peu plus de temps que prévu. Alors, qu'est-ce qu'un projet d'église ? Qu'est-ce qu'un projet d'église ? On le voit sur cette la petite page de titre, la petite page de garde. C'est l'horizon vers lequel nous voulons nous projeter avec l'aide de Dieu. Donc toutes les activités que Jean-Haut a présentées, c'est des activités qui participent aussi à ce projet d'église. Et cet horizon vers lequel on veut se projeter, il se résume aussi dans cette phrase que nous avons là aussi réfléchi. Nous avons laissé mûrir cette phrase au cours des derniers mois pour arriver à cette formulation que vous voyez. L'église de Vendeuvre est une communauté chrétienne, multiculturelle. Il suffit de tourner les yeux pour voir qu'on beaucoup de cultures sont représentées dans notre assemblée. Multigénérationnelle, pareil, il y a Sarah et puis Marie-Jo. On est très heureux de te voir et Carmela. Je ne sais pas si vous êtes nos aînés, peut-être sans doute, il y a Bernadette aussi, mais voilà, toutes les générations sont présentes dans notre Église. Et une communauté qui souhaite vivre et partager sa foi et son espérance en Jésus. Notre aspiration est d'aimer en action et d'être un espace d'accueil, de ressourcement, de formation et d'envoi. Soyez les bienvenus. Et c'est vraiment, si vous venez aujourd'hui pour la première fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Une communauté d'accueil, un havre de ressourcement, un espace de formation et un tremplin pour l'envoi. C'est les quatre mots-clés, les quatre axes du projet d'église pour les deux prochaines années scolaires. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais encore une fois, la semaine prochaine, vous pourrez repartir avec tout le descriptif des actions concrètes. Et on l'enverra aussi dans le mail hebdomadaire. Alors certaines de ces actions que vous n'arrivez pas à lire et qui figurent là derrière moi ont déjà été mises en œuvre. Par exemple, Michel, mais je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, Michel et Dominique ont installé un portillon devant l'église pour sécuriser, on a une cour là juste derrière le bâtiment, pour que les enfants à la fin du culte puissent être en extérieur sans qu'il y ait de danger avec la route. C'était aussi une manière d'accueillir les plus petits, les enfants qui se sentent à l'aise. Donc ça, c'est super, c'est déjà fait. Merci Dominique, merci Michel. Et puis il y a d'autres actions qui vont sans doute demander plus de temps, plus d'investissement. On souhaite mettre en place un groupe de visiteurs, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont à cœur de rendre visite à celles et ceux qui ont plus de mal à venir aux rencontres en présentiel de l'Église. Et Marie-Jo, on est vraiment très heureux de te voir au culte ce matin, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est ce que tu m'as dit en arrivant, ça fait longtemps que je voulais venir, mais voilà, donc l'idée de ce groupe de visiteurs, c'est que les personnes qui peuvent être soit par la maladie, soit par le grand âge, empêchées de venir, ou juste aussi des rencontres amicales, il y a d'autres raisons aussi de se rendre visite. Donc voilà, ça c'est un projet qui va sans doute prendre un peu plus de temps à se mettre en place. Accueil, ressourcement, formation, envoi. C'est aussi ces quatre mots-clés qui ont inspiré l'élaboration du nouveau logo de l'Église. Et en fait, ce sont deux sœurs qui ne sont pas là ce matin, Faneva Ramarosan et Juliette, son nom de famille. Fournier, voilà, c'est ça. Fournier, Juliette Fournier. Un duo de choc qui a réfléchi à ce logo sur la base du projet d'église. Et quelques mots, hein, donc Juliette et Fanella font partie d'un collectif, un groupe de plutôt des jeunes. Il y a Teddy qui en fait partie, Richard, Mathias, Guillaume, Faneva, Juliette, qui s'appelle Spotlight, et qui réfléchit à la manière de communiquer de manière pertinente à la génération, aux générations et à la société française aujourd'hui en 2025. Et dans leur réflexion, ils se sont appuyés, en tout cas Juliette et Faneva se sont appuyés sur ces quatre mots-clés, c'est les quatre triangles que vous voyez là, un triangle pour chacun des mots-clés, qui pointent tout ce qui converge en signe de rassemblement. Et cette forme évasée, qui représente aussi, dans laquelle on peut voir un oiseau, c'est l'image de l'envoi. Je vous retranscris ce qu'elles nous ont expliqué, hein, quand au niveau des conseils, elles nous ont présenté ce projet. Et cette forme évasée, ce V comme vent d'œuvre, il peut aussi être vu, avec les petits triangles du dessus, comme un livre ouvert qui rayonne. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est la Bible qui nous ressource et qui nous forme. Et donc, en plus du travail sur le logo, il y a eu tout un travail sur les couleurs, des couleurs chaudes, comme l'ambiance de l'église, hein, tu disais Jean-Haut avant. Et en tout cas, le conseil d'église, et je pense toute l'assemblée, remercie vraiment chaleureusement Faneva et Juliette pour ce travail. Je propose qu'on les applaudisse, même si elles sont pas là. Et ce projet, c'est tous ensemble qu'on veut le mettre en œuvre. C'est pas que l'affaire des anciens ou que l'affaire du conseil d'église. Et je me réjouis par avance de tout ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Toutes les générations, toutes les cultures. Pour le service, pour la gloire de Dieu, d'abord. Pour le service des frères et sœurs, mais aussi pour le témoignage vers l'extérieur de l'église. Et ce témoignage, c'est un peu le fil directeur de ce projet d'église. Ce témoignage vers ceux qui nous entourent dans nos lieux de vie qui sont notre famille, nos lieux de travail, notre voisinage, nos cercles d'amis, nos clubs sportifs, là où on fait nos loisirs, que ce soit du tennis, du foot, de la musculation. Non, il n'est pas là, le champion de France. Oui, il est champion de France. C'était Isaac. Voilà, Isaac avait une compétition hier et il a remporté sa compétition de musculation. Bravo à lui. Et pour caractériser cette orientation vers le témoignage, il y a un mot qui a été inventé par des théologiens il y a quelques années, c'est le mot missionnel. Pas missionnaire, missionnel. L'idée, c'est que le témoignage, la mission, c'est pas juste une activité parmi, en plus des autres. On a les activités pour les enfants, on a le culte, on a les groupes de maison, et on a des activités missionnaires. L'idée, c'est de dire que tout ce que l'on vit dans l'Église, tout ce que l'on fait, toutes les activités sont irriguées par cette mission que Dieu, que Jésus nous confie, d'être des témoins. Donc l'idée et un peu le fil directeur du projet d'Église, c'est aussi d'être cette Église missionnelle, de vivre des vies missionnelles en s'appuyant sur cette belle image qu'a utilisée Jésus, l'image d'une lumière. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 5, les versets 14 à 16, et on retrouve ce verset au tout début du projet d'Église. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. Et c'est notre désir, notre prière pour chacune des actions qui figurent dans ce document, dans ce projet d'Église. C'est que, à travers ces actions, notre Église, notre communauté, notre assemblée soit une lumière au sein de la ville de Vendeuvre. par ces actions qui font le bien, qui apportent le bien. Alors Guillaume, qui est parti, puisque en même temps que ce matin nous avons notre culte de rentrée, il y a le nouveau curé de la paroisse Sainte-Bernadette qui est installé. Guillaume le connaît très bien, ce nouveau curé, donc il est allé avec Dominique et Anne Trompe, qui représentent l'Église également à cet événement. Mais Guillaume m'a prêté une lumière un peu spéciale. Il faut un fondement pour que cette lumière soit visible. Et on va découvrir ensemble quel peut être le fondement, pour que le support pour que cette lumière brille, que ce soit en tant qu'Église de Vendeuvre ou dans nos vies. Cette question des fondements pour nos bonnes actions, une autre Église se l'est posée il y a plus de 1900 ans, alors le contexte était très différent, mais les fondamentaux sont les mêmes qu'aujourd'hui. Le cœur humain sans Dieu n'a pas changé. La mission qui est confiée aux disciples de Jésus est toujours valable. Et plus important, Dieu est toujours le même. L'église en question, elle vivait dans une grande île qui aujourd'hui est dans la Grèce actuelle. Ce que certains reconnaissent à partir de la forme, c'est la Crète, l'île de Crète. Et on pense que l'apôtre Paul... Alors Paul a été en Crète, il a évangélisé cette île, sans doute après sa libération, la première captivité de Paul à Rome, qui nous est racontée à la toute fin du livre des Actes, il a été libéré, ensuite il est allé dans l'île de Crète, avec un de ses plus proches compagnons, qui s'appelle Tite. Puis Paul, après avoir fondé un certain nombre d'églises, est reparti de Crète, et il a laissé Tite sur place pour consolider les églises qui étaient en train de se mettre en place. Puis Paul a entendu qu'il y a eu quelques soucis dans les églises et il écrit une lettre à Tite, à son ami. Et cette lettre, eh bien, elle fait partie du Nouveau Testament. On la trouve dans nos Bibles. Dans cette lettre, Paul parle à plusieurs reprises de la lumière que les églises doivent projeter. Il parle aussi du pied de la lampe, des pieds de la lampe, qui doivent être mis en place solidement. Alors, quel est le projet d'église de l'apôtre Paul pour ces églises de Crète, qui, sans doute vers l'année 65 de notre ère? Voilà 10 actions que Paul va proposer, 10 verbes, 10 recommandations. Refuser de mépriser Dieu. Refuser les désirs terrestres. Mener une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. Être zélé pour accomplir ce qui est bien, se soumettre aux dirigeants et aux autorités, leur obéir, être prêt à bien agir à tous égards, ne dire du mal de personne, avoir une attitude paisible et bienveillante, faire continuellement preuve de douceur envers tous les hommes, avoir à cœur d'être les premiers à faire ce qui est bien. Voilà 10 actions, peut-être que s'il y avait le projet d'église, des églises de Crète, en 65 après Jésus, voilà, peut-être qu'il y aurait des actions de ce type-là qui figureraient. des bonnes actions. Alors nous, en tant que protestants, on a un petit peu du mal avec l'expression « bonne action » parce que ça fait un peu « salut par les œuvres », mais c'est l'expression qu'utilise Paul. Ce sont des bonnes actions que les disciples de Jésus doivent mener, réaliser. Et nous aussi, dans notre projet d'église, nous croyons que ce sont des bonnes actions que nous voulons vivre dans les deux années à venir. Mais comment faire pour que ces bonnes actions, ces 10 bonnes actions, soient visibles, qu'elles s'appuient sur des fondements solides, qu'elles soient mises en œuvre avec la bonne motivation? Et bien, pour le savoir, on va lire ensemble dans l'épître de Paul à Tite, du chapitre 2 au verset 11, jusqu'au chapitre 3, le verset 8. Et on lit dans la version Nouvelle Français Courant. En effet, Tite chapitre 2, verset 11, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres, pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. C'est ainsi que nous attendons le bonheur que nous espérons, le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal, et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. Voilà ce que tu dois transmettre en usant de toute ton autorité, pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Que personne ne te méprise. Rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir, en étant prêt à bien agir à tous égards. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Pardon, je fais passer. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu l'a en effet répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle que nous espérons. C'est là une parole digne de confiance. Je veux que tu insistes avec force sur ces points-là, afin que ceux qui mettent leur foi en Dieu aient à cœur d'être les premiers à faire ce qui est bien. Voilà qui est bon et utile à tous. Bon. On reconnaît bien le style de l'apôtre Paul, assez dense, beaucoup d'informations et c'est un texte assez extraordinaire. Vous avez retrouvé les 10 bonnes actions réparties dans ce texte. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ces 10 bonnes actions, c'est pas une liste à puces. Il faut faire ci, ne faites pas ça. Paul, il va expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut accomplir ces bonnes actions? Et c'est là qu'on va pouvoir trouver les pieds qui vont permettre à la lampe de tenir debout. Et le premier de ces pieds, on le trouve dans le premier verset que nous avons lu. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. La grâce de Dieu. Comment est-ce que vous définiriez la grâce ? Jésus-Christ. Un cadeau. Ouais, exactement. Ouais. Recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité. Un cadeau, généralement, on ne le mérite pas. C'est une preuve d'amour, d'affection. Et ce que nous dit ce verset, c'est que ce que Dieu nous offre comme cadeau, c'est d'être sauvé. Sans rien mériter. Et un peu plus loin dans le texte qu'on a lu, on le relit, hein, Dieu nous a sauvés non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Vivre de la grâce de Dieu, c'est reconnaître que tout me vient de Dieu. Alors la grâce de Dieu, c'est un sujet hyper grand, hyper vaste. Et ce matin, je voudrais juste souligner deux aspects. Donc on va explorer juste deux aspects qui ont un impact et une conséquence pour notre témoignage, pour notre vie missionnelle. Deux conséquences très concrètes. La première, si je vis dans la grâce de Dieu, je n'ai aucune raison de me vanter. Et la deuxième, qui est la conséquence un peu logique, je ne peux pas me penser ou me croire supérieur aux autres. Et pourtant, c'est tellement tentant, hein, de se vanter de ce qu'on peut faire, des dons qu'on a, que Dieu nous a accordés, de se croire meilleur, parce qu'on a compris le sens de la vie. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire que, ouais, finalement, on n'est pas si mauvais que ça, quoi, on est un petit peu meilleur que les autres? Moi, je confesse que ça m'arrive trop souvent. Alors, quand ça arrive, on peut se chercher des excuses. Ah, mais telle personne, tel voisin, tel collègue, il a vraiment un sale caractère. Et figurez-vous que c'est exactement le cas des Crétois. On lit dans le premier chapitre de la lettre que Paul écrit à Tite, un Crétois, donc là il cite un auteur Crétois, qu'il considère comme un prophète, a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Et Paul dit « Voilà un jugement qui est bien vrai. » Bon, ça c'est dit. C'est les Français, tu dis, Michael? C'est pas toi. Ah non, c'était Claude. Ah oui, j'aurais dû savoir que c'était Claude. C'est comme dans la même direction, j'ai pas. Voilà. Comme quoi parfois les préjugés, hein. Voilà. En tout cas, Paul, Tite, les chrétiens de Crète auraient eu toutes les raisons de se sentir bien mieux que tous ces menteurs. Visiblement, il y a aussi une histoire un peuple où il y a eu des trahisons, c'était des mercenaires qui se vendaient au plus offrant, souvent les Crétois. Mais voici ce que dit Paul. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous haïssions les uns les autres. Nous, pas vous. Nous, pas eux, nous. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est reconnaître que tout ce que je peux reprocher à mon patron, à mes collègues, tout ce que je peux reprocher à mes voisins, dans leur comportement, tout ce que je peux reprocher à mes parents, à mes enfants qui sont éloignés de Dieu, d'une manière ou d'une autre, moi je leur ressemblais avant que Dieu ne me sauve dans sa grâce. Et pour notre projet d'église, pour mon témoignage, ce premier pied, la grâce de Dieu, ça implique de se sentir proche des gens, pas au-dessus d'eux. On n'est pas là pour leur faire la morale, on est là pour être à leur côté, pour témoigner de la compassion de Dieu pour eux. Alors, on va essayer avec ce premier pied. C'est pas très subtil, je sais, hein. Vous savez qu'il y en a trois, et voilà, bon. Le deuxième pilier, on le retrouve en reprenant le premier verset, hein. La grâce de Dieu a été révélée. Comment a-t-elle été révélée? Le verset 14 nous répond, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. C'est en Jésus-Christ que la grâce de Dieu s'est révélée au monde. Et comme Paul le fait dans d'autres de ses lettres, il met vraiment l'accent sur le fait que c'est par la mort de Jésus à la croix que nous sommes sauvés. Jésus est venu accomplir parfaitement tout ce que l'histoire du peuple d'Israël avait préparé. Il nous délivre du mal, il nous libère du péché. Mais son œuvre ne s'arrête pas là. Non seulement il nous délivre du mal, mais ce que nous dit ce verset, c'est qu'il a voulu faire de nous un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié qui lui appartienne. Jésus nous rend libres du péché et du mal, et ensuite il nous incorpore à son peuple. Le peuple dont il est le chef, le souverain, le roi. Là aussi, parler de la royauté de Jésus, de la seigneurie de Jésus, c'est un sujet qui est grand comme ça. Et pour ce matin, on va juste mettre en avant deux aspects qui ont une conséquence pour notre témoignage, pour que notre lumière brille. La première, c'est que faire partie du peuple de Dieu, du peuple dont Dieu est le souverain, le roi, dont Jésus-Christ est le souverain et le roi, c'est que nous ne voyageons pas en solo, mais nous voyageons accompagnés de beaucoup d'autres personnes qui ont vécu la même expérience que nous, qui ont rejoint ce peuple. Ça, je pense que c'est assez facile à comprendre. L'Église est la manifestation visible de ce peuple. Ici, ce matin, à Vendeuvre, et si vous êtes là, je pense que c'est un élément dont vous avez conscience. La deuxième conséquence, c'est que, en tant que membre du peuple de Jésus, dont il est le roi, dont il est souverain, je suis son sujet, et je le suis, je marche à sa suite, je vais là où il me conduit, là où il nous envoie. Alors ça paraît un peu plus théorique, mais oui, vivre une vie missionnelle, c'est suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ notamment sur les chemins où il a déjà marché, sur les chemins qu'il a déjà ouverts pour nous, où il nous a précédés. Alors nous ne sommes pas Jésus, mais nous pouvons regarder à lui, nous inspirer de son exemple. Et on va juste prendre justement un exemple qui pour illustrer ce que j'essaie d'expliquer. Paul, au chapitre 3, verset 1, dit à Tite, rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités. Alors le rapport des chrétiens avec les autorités politiques et publiques, c'est un sujet qui est complexe, hein, et même dans le monde protestant, évangélique, il y a toute une gamme en fait de compréhension de la manière dont nous devons nous positionner par rapport aux autorités. On va pas pouvoir faire une analyse approfondie ce matin, mais voilà. Aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité, vous savez que en France, il y a une certaine instabilité du gouvernement, une instabilité politique. Si on regarde autour de nous, on voit que c'est partagé dans d'autres pays européens. Ici, Paul insiste sur l'obéissance et la soumission. Dans d'autres textes de la Bible, notamment dans l'Apocalypse, le pouvoir politique est présenté comme étant un agent du mal, un agent corrompu. Et Jean écrit l'Apocalypse à un moment où les persécutions sont particulièrement fortes. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde entier, nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où la foi n'est pas libre, ils voient combien le pouvoir politique peut être un agent actif de la persécution ou passif en laissant faire et en ne condamnant pas ceux qui commettent les crimes. Et sur un sujet délicat comme celui-ci, regardons à Jésus. Jésus aussi a été confronté à cette question-là, du rapport avec le pouvoir romain, le pouvoir d'occupation romain. Et la réponse de Jésus, alors on ne va pas pouvoir développer, mais c'est une attitude de respect, mais de respect critique. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En tant que citoyen français et chrétien, en tant que résident français, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de nationalité française, oui, nous sommes appelés à respecter les autorités et les lois qui régissent la vie publique de notre pays. Mais le fait d'être membre du peuple de Dieu, d'être membre du peuple dont Jésus est le roi, ça fait que nous savons aussi que les lois humaines ne peuvent pas avoir le dernier mot, que notre allégeance première, elle est au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ. Et à ce titre, on peut questionner respectueusement, dans le dialogue, ce qui va s'opposer aux valeurs du royaume dont Jésus est le souverain. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, le fait d'être membre du peuple de Dieu, ça crée une allégeance nouvelle. Alors, c'est un exemple un peu précis, mais on pourrait, voilà, la manière dont Jésus envisage les relations avec les femmes, avec les enfants, les pauvres, voilà, toute une série de sujets sur lesquels on peut regarder à Jésus pour essayer d'ajuster notre témoignage. Alors, on va attendre le troisième pied de notre lampe et on va le trouver vers la fin du texte que nous avons lu. Dieu nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, par le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu l'a en effet répandu avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Le troisième élément, après la grâce de Dieu, après la Seigneurie de Jésus, c'est l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint. Il opère en nous la nouvelle naissance, il transforme notre être intérieur, mais il fait plus que ça. Et l'action du Saint-Esprit, pareil, c'est un sujet extrêmement vaste, et ce matin, on va juste voir deux aspects qui concernent notre témoignage, notre vie missionnelle, en tant qu'individu, en tant qu'Église. La première, c'est que le Saint-Esprit nous éclaire. Et il nous éclaire dans notre compréhension du monde, dans notre compréhension des situations. Et il utilise surtout pour cela notre lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à faire des connexions entre ce que nous lisons et ce que nous voyons, ce que nous observons, ce que nous vivons. C'est le Saint-Esprit qui rend le texte biblique vivant, actuel dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, la Bible serait un livre comme les autres quand on le lit. Avec l'Esprit-Saint, quand nous lisons la Bible, le texte biblique prend un relief nouveau. Par exemple, voir de l'encouragement dans des situations où avec un regard humain, en fait, on n'y verrait que des raisons de désespérer. Ou bien voir dans ce qui nous est présenté comme une avancée sociétale, le suicide assisté par exemple, voir en fait ce que ça représente réellement aux yeux de Dieu. Une remise en question de la valeur de la vie humaine. Et nous avons besoin de cet éclairage dans nos vies pour chercher à comprendre avec le regard de Dieu ce que nous vivons, ce que vivent aussi les gens auxquels nous voulons témoigner, les personnes qui nous entourent, les situations qu'elles traversent. Le Saint-Esprit nous éclaire, première chose, et il nous guide. Je crois profondément qu'une des actions du Saint-Esprit dans nos vies, pour nous aider à témoigner, c'est de nous inspirer des pensées, des prières, des paroles pour certaines personnes. Ça vous est déjà arrivé, ça, à un moment donné, de penser à quelqu'un? Alors, on peut se dire oui. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils pensent aussi à d'autres personnes qu'ils aiment bien. Mais je pense que c'est une des manières d'agir du Saint-Esprit en nous. Que ce soit dans l'Église ou en dehors, envoyer un texto à un copain du club de foot pour prendre des nouvelles. Dire à un collègue qui traverse une épreuve difficile qu'on va prier pour cette situation, même si lui est complètement athée ou agnostique. Parler en toute simplicité avec son voisin pour lui dire que quand il nous voit partir le dimanche matin, en fait, c'est parce qu'on va à l'église. Et juste dire ça, généralement, ça, voilà, ça déclenche des questions, ça peut ouvrir une discussion. Il ne s'agit pas de faire des longs discours théologiques ou de faire de l'apologétique très... Voilà, juste simplement dire ce qu'on vit et l'esprit nous inspire pour le timing, l'esprit nous inspire pour le contenu, à quelle personne s'adresser. Et je pense que c'est à nous de ne pas résister, de prier pour que Dieu nous indique par son Esprit Saint à qui envoyer un petit message, à quel moment. L'action de l'Esprit Saint. Normalement, ça tient. Alors, il faut se rappeler que toute image a ses limites. Ici, on pourrait se dire, ah ben, on peut sortir, on a le Saint-Esprit, mais pas la grâce de Dieu, ou Jésus-Christ et pas le Saint-Esprit, alors qu'en fait, tout ça, c'est lié. On le voit dans le verset qu'on vient de lire. L'Esprit-Saint, Dieu l'a répandu par Jésus-Christ. Donc, tout ça, c'est extrêmement lié. On ne peut pas séparer, mais là, c'était plus à des fins pédagogiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'insistance de Paul sur ces questions-là. Tu peux passer les slides, Léonel, s'il te plaît ? On ne va pas relire les versets, mais en tout cas pour Paul, l'action brillée par des bonnes œuvres, en s'appuyant sur la grâce de Dieu, sur la seigneurie de Jésus-Christ, l'action de l'Esprit est un impératif pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu, pour nous tous. Voilà ma prière pour notre projet d'église, pour nos activités régulières, pour les différents projets que nous avons qui figurent dans ce document que vous pourrez récupérer la semaine prochaine. Alors tout ça, c'est bien beau, hein. En anglais, il y a une expression qui s'appelle « reality check », c'est-à-dire on se confronte à la réalité. Et là, je vais parler pour moi, parce que je veux pas généraliser, mais si je suis honnête, des fois, ma lumière, elle est comme ça. Parfois, mon trépied, il perd de la hauteur. Il y a un des pieds qui vacille. Voir une occasion favorable et se dire non, j'ai pas le temps, non. Oublier de garder le contact, ne pas saisir une perche qui nous est tendue, avoir ce sentiment des fois de supériorité qui est un reflet de l'orgueil par rapport à un collègue, une collègue. On pourrait allonger la liste des manquements. Oui, ma lumière est parfois bien obscurcie et mon témoignage bien timide et réservé. Bien souvent, le Saint-Esprit qui veut me parler, il y a beaucoup d'autres voix qui prennent le dessus. Et ces manquements, je m'en repens. Si c'est des choses qui vous arrivent, je pense qu'il faut s'en repentir. Et se rappeler que ces trois fondements qu'on a vus ce matin sont un encouragement à rester fidèle. Oui, nous vivons par la grâce de Dieu. Nous faisons partie du peuple dont Jésus est le Seigneur, le Roi, et le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire. Se repentir pour et demander à Dieu de nous aider à redevenir fidèles ou à rester fidèles à cette vocation d'être un témoin. Et pour terminer, je vous invite à prier, je vais rallumer la lumière.
Ça va ?
Je vais pas faire de mal à vos yeux. Priez une courte prière, qui est une forme très ancienne de prière, alors qu'on n'utilise pas trop dans les églises évangéliques, qui est plutôt utilisée dans les églises anglicanes, luthériennes ou catholiques. C'est une forme de prière qu'on appelle collecte, qui date du 5e siècle. Donc je ne pense pas que les chrétiens de Crète pouvaient déjà prier ce type de prière. Et elle est proposée dans un recueil de prières sur la manière dont Dieu peut interagir avec notre vie quotidienne. C'est une prière pour être porteur de bonnes nouvelles. On va l'afficher, si tu veux bien, Léonel. Ouais. Encore la suivante. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es l'auteur de toutes bonnes choses, nous te prions de faire de nous des messagers de ta bonne nouvelle, des signes de ta personne, des instruments de tes bonnes œuvres et les porteurs d'un avant-goût de la plénitude de bonté dans l'âge à venir. Nous te prions cela pour toutes celles et tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, afin que les personnes que nous rencontrons puissent te connaître et t'aimer en retour. Nous prions au nom de Jésus qui nous a rachetés. Amen.
Merci, Jeff.